France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En France, la cocaïne est de plus en plus répandue. Environ 10% des Français en auraient déjà consommé dans l'année. Face à cet enjeu de santé publique, comment limiter les risques liés à sa consommation ? Tous les territoires, toutes les classes d'âge et tous les milieux sociaux sont concernés. En 10 ans, sa production mondiale a doublé, les prix ont chuté et les usages se sont banalisés au point qu'elle est souvent perçue comme moins dangereuse. Or, l'implication de la cocaïne dans les décès a augmenté. Puissant psychostimulant, il agit sur le système de récompense et présente un fort pouvoir addictif. Mais, contrairement aux opiacés, à l'alcool ou au tabac, pour l'heure, il n'existe aucun traitement pour soigner cette dépendance. Quelles sont donc les pistes thérapeutiques à l'étude ? Cocaïne, l'alerte blanche. Florence Noble, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialisée en pharmacologie et thérapie des addictions. Marie-Geoffrey Roustide, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche à l'INSERM et coordinatrice du numéro à venir en mars, numéro de la revue Esprit, les nouveaux territoires des drogues. Et en duplex depuis France Bleu, ici Montpellier, Hélène Donadieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service d'addictologie au CHU de Montpellier. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Merci à vous également d'être là au rendez-vous en écoute en direct ou en écoute à toute heure en podcast. Et nous aussi, nous sommes à votre écoute tous les jours sur Blue Sky. N'hésitez pas à échanger avec nous, on est là pour ça, à commenter. Ça se passe sur notre compte @sciencesqfd. Alors, que provoque un usage répété de cette drogue ? Quel est son mode d'action chimique sur notre cerveau ? Et d'un point de vue neurobiologique, comment se met en place une addiction à la cocaïne ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelle tendance à la consommation observe-t-on ces dernières années ? Voici un premier élément de réponse avec notre archive du jour. Nous sommes en 1983.
New York, San Francisco et aujourd'hui Paris, la vague de la cocaïne a désormais gagné la France. Et si on estime que 15 millions d'Américains en ont déjà pris, c'est près de 2 millions de Français qui en auraient déjà goûté. Cela malgré les efforts des policiers de l'Office central de répression des stupéfiants qui saisissent près de 110 kilos par an.
La cocaïne qui est produite dans cette région d'Amérique du Sud part en Europe ou voire même parfois en Amérique du Nord par des routes extrêmement variées, qui peuvent passer par d'autres pays d'Amérique du Sud, voire par l'Afrique, par d'autres capitales européennes, pour approvisionner indifféremment l'une ou l'autre des capitales, voire même, on l'a vu dans deux affaires, pour retourner aux États-Unis. Actuellement, nos réseaux retombent presque exclusivement et toujours sur des réseaux colombiens, mais extrêmement structurés, entre les mains de malfaiteurs, véritablement de professionnels du crime.
Achetée 10 000 francs le kilo, la cocaïne est revendue sous forme de petits paquets d'un gramme, pas moins de 600 francs. Pour ce prix-là, les consommateurs s'offrent le plaisir de manipuler les cristaux, de les écraser pour pouvoir tirer une ligne qu'ils aspirent par le nez à l'aide d'une paille. Sniffer, c'est le dernier geste à la mode dans les soirées mondaines.
Voilà un extrait du 20h de TF1 en 1983. Alors Marie, Geoffrey Roustide, on entendait dans cette archive 2 millions de Français ont déjà goûté cette drogue. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus puisque on a un peu plus d'un million de Français qui en ont consommé dans les 12 derniers mois. Et on est à près de 10% des Français qui ont expérimenté cette drogue. Donc on considère que depuis les années 90, donc date à laquelle, depuis 1992, date à laquelle on a des dispositifs d'observation, la consommation de cocaïne aurait été multipliée par 10. Donc en fait, c'est le produit pour lequel le niveau de consommation a le plus augmenté. Même si, faut toujours garder en tête que quand on regarde les chiffres, donc je disais un peu plus d'un million de Français qui en ont consommé dans les 12 derniers mois, pour l'alcool, c'est 40 millions de Français qui ont consommé de l'alcool dans les 12 derniers mois, et pour le cannabis, 5 millions. Donc on a une augmentation très importante, mais ça reste, enfin c'est aujourd'hui le troisième produit après l'alcool et le cannabis.
Oui, puis comme vous dites, il y a aussi le nombre de saisies de cocaïne qui ne cesse d'augmenter en France. Lors de la décennie 90, les saisies de cocaïne, c'était en moyenne plus de 1,8 tonnes par an. Depuis 2021, le seuil des 20 tonnes annuelles est systématiquement dépassé. Je me tourne vers vous, Hélène Donadieu, sur votre écoute de cette archive de 1983.
Je l'avais jamais entendu et je suis ravie de l'avoir entendu aujourd'hui. C'est étonnant parce que je pense qu'on pourrait avoir, avec des chiffres différents comme Marie a pu le dire, on pourrait avoir la même impression maintenant, on pourrait avoir la même information qui serait donnée sur la diffusion de la consommation de cette substance. On pourrait noter une certaine modification sur les modalités de prise, puisqu'on a une diffusion de différentes modalités de consommation de la cocaïne. Donc c'est vraiment très très intéressant, je vous remercie.
On va revenir dans quelques instants justement sur ces différences de modalités de prise, mais votre écoute vous aussi, Florence Noble, sur cette archive.
Ouais, enfin, elle est vraiment très intéressante parce qu'on voit dès les années 1983, cette archive, donc elle date. Hein, et on voit déjà que la cocaïne était quand même un problème à lequel on s'intéressait. Et c'est un problème qui n'a fait malheureusement que augmenter au cours des années. Hein, et on arrive maintenant, on considère qu'on est face quand même à un problème de santé publique. Hein, et je pense que cette évolution, elle est importante et on voit bien qu'elle a mis du temps pour arriver au fait que ce soit considéré comme un problème de santé publique maintenant.
Et alors justement, ce problème de santé publique, on va essayer d'en dessiner les contours. Hélène Donadieu, vous évoquez justement des différentes modalités de prise. La cocaïne, donc, c'est un produit psychoactif de la classe des psychostimulants. Elle se présente sous deux formes.
Oui, alors elle peut se présenter sous la forme de poudre et puis elle peut être ce qu'on appelle cuisinée, c'est-à-dire qu'elle va être basée soit avec de l'ammoniac, soit avec des bicarbonates pour faire une sorte de caillou qui va être ensuite inhalé ou fumé en fait dans un dispositif de ce qu'on appelle une pipe à crack. Mais la cocaïne peut également être diluée pour être injecté. Donc il y a ces trois modalités de consommation, le sniff, l'inhalation et l'injection.
Il y a quand même, Florence Noble, un distinguo à faire quand même entre la poudre et le crack. Enfin, ce ne sont ni les mêmes effets, ni les mêmes dangers, ni les mêmes problèmes d'addiction.
Alors l'addiction reste le même problème pour les deux. Il apparaît, d'après la littérature, il apparaît beaucoup plus vite avec le crack, avec la cocaïne poudre, chlorhydrate. Hein. Et ça s'explique par le fait qu'en fait, sous forme de crack, de cocaïne base, en fait, la molécule arrive vraiment très vite au cerveau. Sa façon d'être fumée, en fait, hein, ça arrive vraiment très vite au cerveau et c'est cet effet de pic qui va faire que le potentiel addictif va être plus fort qu'avec la cocaïne chlorhydrate poudre qui, elle, va mettre un peu plus de temps pour arriver au cerveau. Et le danger aussi avec le crack, hein, c'est qu'il peut y avoir des solvants qui sont inhalés en même temps, parce que les pipes à crack, des fois ça peut être, il peut y avoir de la peinture, il peut y avoir du métal, il peut y avoir un certain nombre de toxiques qui vont aussi être inhalés et qui vont aussi fragiliser la barrière qui protège le cerveau et la rendre beaucoup plus perméable et d'autant plus le crack entrera d'autant plus vite dans le cerveau encore.
Alors elle a d'abord été utilisée à des fins médicales, elle a longtemps fait partie de la pharmacopée du 19e siècle. On prescrivait de la cocaïne comme stimulant, anesthésique, encore contre l'asthme, l'indigestion, même la dépendance à la morphine et à l'alcool. C'est au début du 20e siècle qu'elle est interdite. Mais alors comment ça s'est passé, Marie Geoffrey Roustit, ces changements d'usage autour de cette drogue-là?
Alors, en fait, c'est vrai que la cocaïne, par exemple, elle a été beaucoup utilisée aussi par les dentistes. Donc, il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur ces questions-là. Mais en fait, ce qu'on observe avec la cocaïne, on l'observe également avec l'opium, on l'observe également avec le cannabis. Alors aujourd'hui, dans le sens presque inverse, puisque on parle de cannabis thérapeutique actuellement en France, en fait, il y a eu effectivement des usages mondains, dans les années 20, dans les années 30. Donc, c'était vraiment une cocaïne qui était utilisée dans les salons mondains, comme pour l'opium également. Et puis, dans les années 80, ce qu'on observe, on observe une diffusion plus importante de la cocaïne. Donc, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau aujourd'hui. Mais dans les années 80, c'est quand même une drogue qui était déjà très présente. Et dans les années 80, en fait, c'était une drogue qui était quand même assez chère. Et donc, elle était réservée vraiment on va dire, à la jet set, au monde de la nuit, au monde du journalisme, télé. On parlait beaucoup de cocaïne à l'époque. Et donc, en fait, ça a contribué aussi à donner une image de moindre dangerosité de la cocaïne. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir faire de l'information et de la prévention, comme on le fait aujourd'hui à travers votre émission. Parce que, en fait, comparé à l'héroïne, par exemple, qui a une image plutôt négative parce que associée à l'épidémie de sida, parce que c'était une drogue qui était injectée, la cocaïne ayant été pendant longtemps sniffée dans des milieux plutôt mondains et plutôt festifs, cette drogue a bénéficié d'une image, et encore aujourd'hui, de moins de dangerosité. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'augmentation considérable de la production en Amérique du Sud, l'accessibilité très forte en France, également avec l'ubérisation du trafic, c'est-à-dire qu'avant, les personnes devaient aller acheter vers un dealer. Aujourd'hui, c'est le dealer qui vient au consommateur, hein, comme quand on, quand on consomme de la nourriture aussi. Maintenant, on se fait livrer. Ben, pour les drogues, c'est la même chose. Les dealers se sont adaptés. Et ben, en fait, on a beaucoup plus de produits, des prix qui ont considérablement baissé. Et donc, en fait, aujourd'hui, toutes les classes sociales qui sont concernées, tous les territoires qui sont concernés, et également les territoires ruraux, et également des classes d'âge qui vont de 18 à 44 ans. Et c'est d'ailleurs la classe d'âge plutôt 25-34 ans qui est la plus consommatrice. Donc on a souvent cette image en fait des drogues très associées à la jeunesse. Mais là, avec la cocaïne, on a aussi beaucoup de quarantenaires qui vont consommer. Parce que la cocaïne, en fait, elle est consommée en milieu festif, mais c'est une drogue de la performance, donc elle est aussi consommée, et on pourra y revenir plus tard, mais dans le milieu du travail, pour tenir des cadences importantes, ou également dans le cadre de consommation sexualisée pour la performance sexuelle. Donc en fait, c'est plus uniquement une drogue qui est consommée en milieu festif. Donc c'est un peu très rapidement les principaux changements sociologiques qu'on peut observer.
Hélène Donadieu, donc là, pour résumer, il n'existe pas un profil de consommateur, mais bien une diversité. Mais est-ce qu'on a assez de données, justement, à ce sujet, sur ces consommateurs-là, sur ces diversifications de profils des usagers ?
Non, je suis ravie que vous posiez cette question-là, parce que c'est vrai qu'on a cette notion de la diffusion, via les saisies, via la modification du marché, via exactement tout ce que vient de définir très clairement Marie. On a une augmentation de la demande de soins dans nos structures qui est vraiment spectaculaire. Plus d'alertes sanitaires également dans les services d'urgence et autres structures hospitalières. Mais on manque quand même de données. Il y a des travaux en cours et on en est ravis, hein. Mais on manque de données sur, par exemple, la répartition avec genrée, je dirais, des choses, avec le fait qu'on a l'impression qu'il y a une diffusion globale, mais on a peu d'informations sur les femmes qui consomment. Dans le milieu du travail, on est convaincu qu'il y a une diffusion. On le voit au quotidien dans nos consultations. Et en même temps, on n'a pas de chiffres clés. Il y a une étude actuellement qui est en train de mener là-dessus, qui va être très robuste et qui va nous amener des grosses informations. Donc c'est vrai qu'on a besoin, sur le plan épidémiologique, d'étayer vraiment cette diffusion de la cocaïne, les modalités, le parcours des personnes suivant les consommations, pour faciliter et organiser notre offre de soins.
Alors quels sont les effets, les dangers liés à sa consommation et comment l'usage répété de cette drogue modifie le cerveau au point de le rendre malade ? On en parle dans quelques instants.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Florence Noble, Marie Geoffrey Roustide et Hélène Donadieu. Nous parlons d'un stupéfiant interdit, la cocaïne, et de ses effets sur la santé. On vient de voir que sa consommation est en forte augmentation en France.
Quelques milligrammes de cocaïne, la soirée ne fait que commencer. Ils ne font pas partie du showbiz. Ils sont trentenaires, leurs revenus entre 1300 et 2000 euros mensuels. Ils sont la nouvelle cible des narcotrafiquants. Ils semblent ignorer les risques liés à la cocaïne, physique d'abord, exemple, les complications cardiaques, psychique ensuite, crise paranoïaque ou dépression. Ponctuellement, chez lui, Eric, avec ses amis, sniffe de la cocaïne.
Il n'y a pas de côté jet-set, pas du tout. C'est une drogue qu'on trouve à tous les coins de rue. Le premier effet, c'est que ça te booste physiquement. Et en plus, ça te donne une certaine aisance au niveau de la parole. Il n'y a jamais vraiment de raison. Enfin, si la raison pour laquelle ça arrive, c'est qu'il y a l'opportunité. Sinon, en général, je ne cours pas après le produit.
Jadis drogue de luxe, la cocaïne se démocratise. En 10 ans, son prix a été divisé par 2. En France, il serait 300 000 à en prendre régulièrement. La cocaïne se fixe sur les parois du cerveau. Conséquence, la quantité de dopamine, cet excitant produit naturellement par notre organisme, est alors multipliée par 1800. Thomas est devenu accro à la cocaïne.
Au début, c'était de l'amusement, c'était que de l'amusement. Ça m'est déjà arrivé de ne pas dormir 3 jours de suite, quoi. Et puis je dirais que c'est même un week-end mémorable où je me suis bien marré, etc. Mais ça laisse tellement peu de choses. On glisse lentement dans une situation, on se met à découvert, on fait un crédit. À un moment donné, le fil y casse, on se rend compte que là, on va droit au mur. Donc la dépendance, elle s'installe de manière très sournoise, en fait. C'est-à-dire que, je dirais, une fois qu'elle est vraiment là, il est trop tard.
Un extrait du journal de 20h de France 2 en 2004, on entendait un certain nombre de risques. On va évidemment venir à la question de l'addiction, mais Hélène Donadieu, quels sont les effets, les dangers liés à sa consommation? Il faut distinguer un risque ponctuel et un risque cumulatif.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de risque zéro au moment de la consommation de cocaïne, mais on sait quand même que sur des complications particulières, notamment psychiques et cardiaques, il y a un effet quantité dépendante. Donc si on s'intéresse aux complications ponctuelles, suivant les modes de consommation et un éventuel partage de matériel de la consommation, il peut y avoir une prise de risque au niveau infectieux, avec un partage de virus, tout simplement. En cas d'injection, il peut y avoir des risques d'abcès. Marie pourra me reprendre sur les structures qui existent et qu'on souhaite vraiment développer en France sur la réduction des risques. En ponctuel également, il existe des risques cardiovasculaires avec des troubles du rythme. En fait, il faut savoir que la cocaïne va fermer les vaisseaux et donc il peut y avoir des infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral chez une personne jeune qui n'a pas par ailleurs de facteurs de risque. Et puis ça abaisse le seuil épileptogène, donc il peut y avoir des crises d'épilepsie sur une consommation ponctuelle. Si on s'intéresse à la consommation chronique avec un risque cumulatif, on va être principalement sur les complications en santé mentale qui ont été largement évoquées dans votre reportage, avec des troubles anxio-dépressifs très marqués, des idées noires qui peuvent aller jusqu'aux idées suicidaires, voire au passage à l'acte, et notamment dans les périodes qu'on appelle de descente, c'est-à-dire les jours qui suivent une grosse consommation où il peut y avoir un épuisement psychique, mais il peut y avoir ici des symptômes psychotiques, de véritables symptômes psychotiques avec des épisodes délirants. Donc, et des troubles du comportement, notamment sur la consommation de cocaïne basée qui va être vraiment beaucoup plus responsable de complications en santé mentale en fonction de la quantité consommée. On va avoir des problèmes cardiaques également, avec des insuffisances cardiaques qui peuvent s'installer sur un risque cumulatif au niveau des consommations. Mais il y a également des problèmes rénaux, des problèmes pulmonaires sur l'inhalation, des problèmes ORL sur le sniff. Enfin, voilà, il y a quand même moult complications.
Et puis, comme vous dites, le catalogue des risques et des complications est long comme le bras. On sait que l'alcool, qui est une drogue forte, on peut le rappeler, provoque chaque année en France plus de 40 000 décès. C'est la seconde cause de mort prématurée. Florence Noble ou Marie-Geoffrey Roustide, est-ce qu'on a connaissance des chiffres officiels pour les victimes de la cocaïne au niveau des décès?
Alors, les deux principales substances, effectivement, qui cause le plus grand nombre de morts, c'est le tabac, près de 80 000 morts, et l'alcool, près de 50 000 morts. Et donc, c'est intéressant parce que c'est deux substances qui sont autorisées. Et par contre, on a d'autres substances, donc comme l'héroïne, pour lesquelles on a entre 500 et 800 overdoses par an, suivant les années. Et pour la cocaïne, on n'a pas de données disponibles sur, en France en tout cas, sur l'implication de la cocaïne seule. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que souvent, par exemple, dans les décès liés aux overdoses, il peut y avoir aussi une présence de cocaïne. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et aussi inquiétant, c'est qu'aux États-Unis, on parle beaucoup de la crise des overdoses opioïdes. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à une quatrième vague dans la crise des overdoses. Et en fait, les stimulants sont à l'origine de cette vague d'overdoses. On a des données sur la cocaïne, mais ça, Florence pourra le dire. Sur la mortalité aussi et sur les admissions aux urgences. Et là, qui sont vraiment quelque chose de très inquiétant.
Effectivement, il y a une augmentation très forte de patients qui arrivent aux urgences suite à des consommations de cocaïne. Et c'est souvent des symptômes, c'est souvent des crises cardiaques, en fait, des problèmes cardiaques qui les fait arriver aux urgences. Et il y a une mortalité assez forte, en fait, de jeunes de moins de 40 ans par crise cardiaque due à la consommation de cocaïne. Et en général, à l'hôpital, Hélène pourra peut-être mieux en parler que moi, mais dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à un problème cardiaque, un jeune qui arrive à un problème cardiaque à l'hôpital, il faut tout de suite faire un dosage de cocaïne, parce que c'est sans doute la cause de ce problème cardiaque dans beaucoup de cas.
On vient de bien prendre conscience des risques cardiovasculaires liés à cette drogue. Hélène Donadieu, maintenant, côté cerveau, que fait la cocaïne sur le cerveau? Comment agit-elle d'un point de vue neurologique?
C'était très bien expliqué dans votre reportage. Elle va inhiber la recapture de la dopamine et d'autres neuroamines au niveau du cerveau. Donc il va y avoir une inondation vraiment de transfert de neuromédiateurs en quantité beaucoup plus importante que la physiologie, avec les effets escomptés par la consommation, c'est-à-dire une motivation immense à faire des choses, à être concentré au moment où on consomme, pas à distance. Il va y avoir une augmentation des perceptions sensorielles, et Marie en a parlé tout à l'heure, sur l'utilisation de la cocaïne dans la sexualité. Certes, il y a cette notion de performance, parce qu'on a une immense motivation et une puissance pour faire des choses, mais il y a également une augmentation des perceptions sensorielles, qu'elles soient autour de la musique, autour des relations sociales, autour de la sexualité, du ressenti du plaisir. Bon, c'est vrai que quand je vous le raconte comme ça, j'ai l'impression de vous donner envie d'en prendre. Mais le problème, c'est que c'est pas une concentration de neuromédiateurs physiologiques. Donc ce sont des sensations artificielles et qui ne sont pas véritablement accessibles sans cette substance. Et du coup, le deuil de ces sensations quand on doit stopper la consommation est compliqué.
Mais justement, cette cocaïne qui bloque la recapture de neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, noradrénaline, au niveau des synapses, qu'est-ce qui se passe quand justement l'usage est répété, Florence Noble?
En fait, c'est pas forcément la répétition de l'usage. Dès le premier usage, en fait, on va avoir au niveau de la synapse ces neurotransmetteurs qui sont libérés de façon massive et vont inonder complètement le cerveau et vont activer toutes leurs cibles qu'ils vont avoir en phase 2. Donc, on va avoir une surstimulation, en fait, du cerveau, du système dopaminergique avec la libération de dopamine, du système sérotoninergique avec la libération de sérotonine et du système noradrénergique avec la libération de noradrénaline. Donc, on va surstimuler tous ces systèmes. Et c'est cette surstimulation que le cerveau, en fait, n'aime pas, parce que on est vraiment au-delà d'une stimulation physiologique. Donc, on est vraiment au-delà de cette stimulation. Et là, le cerveau, il aime pas trop être surstimulé comme ça, parce qu'il se trouve en déséquilibre important. Et le cerveau, il aime pas ce qui est déséquilibre. Donc, il va chercher à rééquilibrer. Et en fait, il va mettre en place plein de stratégies qu'on va appeler des neuroadaptations. Donc, en fait, le cerveau va essayer de s'adapter à cette arrivée massive de neurotransmetteurs à un moment donné. Et c'est là que les complications vont arriver. Parce que ces neuroadaptations, ça va entraîner des modifications structurelles du cerveau, morphologiques. Les neurones peuvent être changés morphologiquement. Et une modification, bien sûr, fonctionnelle du cerveau. Et là, on rentre petit à petit dans les mécanismes qui conduisent vraiment à l'addiction et dans la pathologie addictive.
Alors, quels sont justement ces exemples de modifications neurochimiques ou morphologiques qui se mettent en place ?
Il y a des études en neuroimagerie chez l'homme qu'on peut faire qui montrent qu'effectivement, il y a des structures cérébrales qui sont diminuées en taille chez des consommateurs de cocaïne par rapport à des patients sains, en fait. Il y a l'amygdale qui est diminuée, il y a l'hippocampe qui peut être diminué, le cortex préfrontal qui est diminué. Donc, on diminue la taille des structures cérébrales. Et donc, diminuer la taille des structures cérébrales entraîne bien sûr un dysfonctionnement de ces structures.
Hélène Donadieu, on a aussi un autre aspect avec cette drogue. On a une drogue où on a des rechutes qui sont très faciles, même après une longue période de sevrage. Et ça s'explique assez facilement.
Alors, je ne sais pas si c'est propre à la cocaïne, oui. c'est propre à l'addiction. Alors, c'est vrai que la cocaïne va avoir quelque chose de très particulier en termes de dépendance psychologique, c'est-à-dire des phénomènes, vous savez, d'envie irrépressible de consommer, le fameux craving, qui va perdurer pendant relativement longtemps.
Le craving, peut-être... c'est quand on a un besoin irrépressible de consommer, c'est ça ?
Totalement. Et c'est vrai que cette situation d'envie irrépressible de consommer, on va pouvoir la retrouver longtemps après l'arrêt. Mais je voudrais pas que les personnes pensent que ce n'est qu'avec la cocaïne qu'on a des risques de reprendre une consommation à distance d'un sevrage, parce que c'est le propre de la maladie addictive, qui est une maladie chronique, et donc la reconsommation fait intégralement partie de la maladie.
Puisqu'en fait, comme on a des changements qui renforcent durablement ces connexions neuronales associées, justement, qui associent la drogue au plaisir, c'est ce qui crée une sorte d'hypermnésie, Florence Noble ?
Oui, ce problème des rechutes et de reprise de consommation, même après de longues périodes d'abstinence, c'est vraiment le problème clé à l'heure actuelle. D'un point de vue neurobiologique, on l'a pas encore compris. On ne sait pas quelle est cette mémoire addictive qui reste pendant des années et des années, même après arrêt de la consommation. Donc, il y a beaucoup d'études qui se font plus en préclinique, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas accès au cerveau de patients, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'études qui se font en préclinique pour essayer de comprendre les mécanismes neurobiologiques qui expliqueraient cette mémoire et les rechutes, même après de longues périodes d'abstinence. Il y a des pistes, ça peut être des facteurs épigénétiques, des marques épigénétiques qui apparaissent au niveau du patrimoine génétique. Voilà. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas encore été décrypté. C'est une recherche relativement récente et je pense que dans les prochaines années, on en saura beaucoup plus.
Alors, comment traiter l'addiction ? Quelles sont les pistes thérapeutiques et médicamenteuses à l'étude ? C'est ce dont on s'apprête à parler dans quelques instants. It's a cocaine world while we're up against stone and drone. It's a cocaine world while we're up against stone and drone. Lazing in the grass, we drift away. Thinking of the colors and the shade. Humming and chilling now to 6 o'clock. Hoping to find the vibe for the next few songs. Sing, 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 sing along. Hold the air in your lungs, it won't.
say the word. It doesn't matter if they sing their song.
It's a cocaine world, the rather get stoned and drunk. We drunk. I'll be on this plane and we're never gonna take it down. It's a cocaine world, the rather get stoned.
Cocaine World, au pilot, en direct sur France Culture, car nous parlons de l'augmentation de la consommation de cocaïne en France, un enjeu de santé publique dont on discute avec nos trois invités du jour. Florence Noble, directrice de recherche au CNRS, spécialisée en pharmacologie et thérapie des addictions. Marie-Geoffrey Roustide, sociologue, directrice de recherche à l'INSERM. Et Hélène Donadieu, chef de service d'addictologie au CHU de Montpellier. On vient de voir que, dans le cas de consommation répétée ou importante, petit à petit, le cerveau se modifie. Et c'est toutes ces modifications qui entraînent l'addiction, qui est véritablement une maladie du cerveau. On parle de neuroadaptation ou neuroplasticité, et c'est ces modifications du cerveau qui conduisent à la pathologie addictive. Hélène Donadieu, en cas de sevrage, quelles sont les conséquences justement lorsqu'on souhaite arrêter de consommer ?
Alors, l'objectif du désir de sevrage, c'est une amélioration de la qualité de vie. Donc, juste chose très importante, c'est qu'il n'est pas question de proposer un sevrage à une personne qui ne souhaiterait pas un sevrage. Hein, c'est le principe de l'accompagnement en addictologie. C'est un accompagnement global, pluriprofessionnel, médical, psychologique et évidemment social. Et on accompagne la personne là où elle en est et ce qu'elle souhaite. Donc, le dogme n'est pas obligatoirement de sevrer les personnes si les personnes ne souhaitent pas être sevrées. Si elles veulent être sevrées, la plupart du temps, la motivation, c'est l'amélioration de leur qualité de vie globale. Et là où on est un peu en difficulté avec la cocaïne, il y a d'autres substances psychoactives avec lesquelles on peut avoir ces phénomènes, c'est que les premières semaines qui suivent l'arrêt de la substance sont des semaines très difficiles pour la personne qui se sèvre, avec des phénomènes de ce qu'on appelle de fléchissement thymique, c'est-à-dire vraiment une humeur extrêmement basse, des difficultés vis-à-vis du sommeil qui devient très présent, très envahissant, des difficultés vis-à-vis de l'alimentation où il y a des sensations d'hyperphagie, d'avoir besoin de manger en continu. Donc on a des symptômes de sevrage, hein, parce que tout ce dont je vous parle, ce sont des symptômes de sevrage, qui sont relativement longs par rapport à d'autres substances. On va être parfois sur 3 semaines, 1 mois, très compliqué en termes de cortège de symptômes physiques de manque. Et ensuite, pendant de longs mois, et vous en avez déjà parlé, hein, il va y avoir quand même, avant de retrouver un état physiologique et de l'humeur stable, beaucoup plus de temps et un éloignement de la dépendance psychologique qui met vraiment aussi beaucoup de temps. Donc ce sont des accompagnements relativement longs et qui doivent être vraiment étayés.
Marie-Geoffrey Roustide, justement sur la prise en charge des patients.
Oui, mais sur cette question du sevrage, je trouve que ce que vient de dire Hélène est très important, c'est-à-dire que le sevrage, en fait, il doit arriver au bon moment. C'est-à-dire que, bon, il y a quand les patients ne le souhaitent pas, mais il y a aussi quand les patients ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand l'addiction est là, soit à la cocaïne ou au crack, et c'est le cas aussi d'autres produits, le produit a pris toute la place dans la vie des personnes. Donc il peut y avoir aussi un désinvestissement dans les sphères professionnelles, dans les sphères amicales, et donc des personnes qui progressivement vont voir en situation d'addiction toute leur vie être occupée par le produit, se désocialiser. Et donc en fait, si le sevrage arrive à ce moment-là, alors que vous vivez dans la rue, que vous n'avez plus de contact avec votre famille ou avec vos anciens amis, le sevrage, il fonctionne difficilement parce que en fait, votre vie, elle a du sens autour de la prise du produit, parce que le produit vient prendre toute la place. Donc c'est pour ça que sur la prise en charge et sur la question des rechutes, il y a toute la dimension qu'évoquait Florence tout à l'heure, sur la dimension neurobiologique, mais il y a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire que pour que ce qu'on appelle le rétablissement, c'est-à-dire le fait qu'une personne aille mieux et qu'elle soit bien prise en charge et bien accompagnée, il faut bien sûr des médicaments, bien sûr un accompagnement sanitaire, mais il faut aussi penser son environnement de vie, c'est-à-dire qu'elle ait un logement, qu'elle puisse également se réinsérer dans sa vie, pas obligatoirement professionnellement dans un premier temps, mais cette dimension sociale de retrouver du sens à sa vie fait aussi partie du processus de rétablissement pour que ça soit pour réoccuper et toute la place qui a été prise à un moment donné par le produit et ce qui constitue l'addiction.
Et sur ce processus de rétablissement, justement, cette autre information, à la durée moyenne entre la première consommation et la première consultation en addicto, c'est actuellement 13 ans pour les usagers qui ont des troubles de l'usage. Alors on a bien compris là qu'il fallait donc pour accompagner les patients et les consommateurs une prise en charge globale, mais pour le moment, du point de vue en tout cas de la piste thérapeutique et médicamenteuse, on n'a pas de traitement en pharmaco pour la dépendance à la cocaïne, mais on a plusieurs pistes à l'étude. Florence Nobel, quelles sont justement celles qui sont les plus encourageantes à vos yeux ?
Alors c'est vrai que malheureusement, contrairement à d'autres drogues comme les opioïdes, le tabac, l'alcool, où on a des traitements pharmacologiques qui peuvent aider les patients, c'est vrai que pour la cocaïne, à l'heure actuelle, on n'a aucun médicament avec une autorisation de mise sur le marché qui existe. Alors il y a des pistes effectivement qui existent. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'études cliniques avec suffisamment de patients pour avoir des conclusions vraiment définitives, savoir si vraiment ce sera des pistes intéressantes et qui pourront vraiment avoir un avenir. Mais il y a par exemple les agonistes GLP-1. On parle beaucoup du GLP-1 à l'heure actuelle, qui est utilisé au départ pour le diabète et pour les personnes qui sont en obésité.
Les agonistes, ça veut dire que c'est
des molécules qui vont activer des récepteurs spécifiques qui vont permettre de réguler certaines fonctions du cerveau, en fait. Voilà, donc là, c'est une piste qui peut être intéressante. Il y a aussi travailler sur le stress. Il y a des molécules qui sont capables aussi de bloquer le stress, qu'on appelle des molécules qui vont cibler, par exemple, les récepteurs CRF. On appelle les récepteurs CRF pour le stress. Et là, c'est aussi des pistes intéressantes parce qu'on sait que le stress est un facteur important dans la reprise de produits. C'est un des facteurs les plus importants. Quand il y a un stress, souvent il y a comment contrer ce stress le produit faisait que quand je le prenais, j'allais beaucoup mieux, donc je vais pouvoir contrer ce stress et m'opposer à ce stress. Donc c'est vrai que le stress, c'est des moments de vulnérabilité très forte pour les personnes qui étaient consommatrices de drogue. Donc ces molécules sont aussi des pistes intéressantes.
Hélène Donadieu, en effet, on a des pistes du côté des traitements axés sur le traitement des comorbidités.
Oui, alors je rebondis sur ce que disait Marie. L'accompagnement d'une personne qui consomme de la cocaïne, ça n'est ou qui a une addiction de manière globale, ça n'est vraiment pas qu'une approche médicamenteuse.
Oui, c'est évidemment psychocomportemental.
Exactement. Vraiment, ce qui fonctionne actuellement dans l'accompagnement, c'est des accompagnements avec des thérapies innovantes pour les personnes, par exemple, qui seraient en situation de grande précarité et qui seraient sans logement. Ce qui va fonctionner le plus, c'est de redonner de la dignité à cette personne, de lui donner accès à un logement, de l'accompagner éventuellement initialement dans ses consommations avec toutes les techniques de réduction des risques qu'on maîtrise totalement, et puis d'arriver progressivement avec un accompagnement global à une modification de sa motivation pour changer son comportement. Et on n'a vraiment pas de médicaments efficaces et miraculeux, donc il faut vraiment être sur une prise en soin globale. Quand il s'agit d'accompagner les comorbidités, là, c'est un message extrêmement fort. Effectivement, parfois, le trouble de l'usage de la cocaïne est associé à une problématique en santé mentale. C'est ce qu'on appelle une pathologie duelle. Et ces deux problématiques, l'addiction et la problématique en santé mentale, s'auto-aggravent et s'auto-entretiennent. Donc on se doit de faire le diagnostic de la problématique en santé mentale, et c'est pas toujours simple en cas de consommation, et d'accompagner médicalement et avec des médicaments la problématique en santé mentale. Et ça, c'est extrêmement vrai pour le trouble déficitaire de l'attention. C'est-à-dire qu'une association entre trouble de l'usage de la cocaïne et TDAH doit être systématiquement recherchée. Et quand il y a effectivement un TDAH, il faut absolument traiter le TDAH pour limiter son intensité et donc limiter l'appétence pour la cocaïne.
Autre piste à l'étude, le vaccin anti-cocaïne qui est à l'étude depuis plus de 30 ans, la stimulation transcrânienne, mais aussi l'usage de psychédéliques. On continue de parler de la recherche en cours pour traiter cette addiction avec le reportage du jour. À l'heure actuelle, on l'a dit, il n'existe pas de traitement pour soigner l'addiction à la cocaïne. Mais des recherches précliniques qui visent à en étudier les mécanismes cérébraux au niveau moléculaire apportent des pistes thérapeutiques avérées chez des modèles murins, chez la souris. Pour le reportage du jour, nous sommes allés découvrir ces recherches à l'Institut de Biologie Paris-Seine. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha. Oui, ces mécanismes concernent une communication dangereuse entre deux acteurs clés dans le mécanisme d'addiction, les récepteurs de la dopamine et du glutamate, neurotransmetteurs qui forment un complexe régulant la réponse aux drogues. Peter Van Noot, directeur de recherche au Centre des neurosciences de Sorbonne Université, et Nicolas Pietrancosta, chercheur en chimie du vivant, ont conçu des outils qui bloquent justement cet échange chez la souris avec observation d'une réduction du comportement addictif.
Ici, il ne faut pas faire de bruit parce que c'est dans cet étage qu'on fait le comportement sur les animaux. Et le stress, c'est vraiment un facteur confondant. Et il y a des box partout en fonction du comportement qu'on veut utiliser. Soit exposition aux drogues, soit l'apprentissage spatial en général, la mémorisation. Il y a
le sommeil aussi.
Le sommeil. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne va pas faire trop de bruit et les microscopes sont de l'autre côté. Voilà, alors là, on arrive sur la plateforme d'imagerie. Alors, venez avec moi. Donc là, par exemple, c'est des microscopes confocaux. Donc c'est ce qui permet de faire des images en 3D de neurones. Et il y a aussi, alors, ce gros microscope très haut, ça permet de faire de l'imagerie en prenant des images très, très rapidement sur du tissu vivant. Comme ça permet d'observer le vivant en direct. Là, je pense que l'étudiant est devant son ordinateur, il doit avoir le résultat de son expérience en direct, ce qui est toujours satisfaisant. Et ça c'est un très gros microscope biphoton. Ça permet de voir avec une belle résolution des mécanismes très dynamiques sur des tissus, mais des tissus qui sont gardés en état physiologique, quoi. Voilà. Là, on rentre dans notre laboratoire. Et donc là, c'est là où on fait toutes nos petites expériences. Alors nous, on travaille vraiment que chez la souris. Et on vérifie que ce qu'on trouve chez la souris peut se vérifier dans des modèles, enfin dans des tissus post-mortem humains. Parce qu'on a une collaboration au Canada, à l'université McGill, et on a accès à des cerveaux de personnes qui ont été atteintes de maladies psychiatriques. Donc il y a des cerveaux de gens qui ont des historiques de dépendance aux psychostimulants, par exemple. Donc on vérifie toujours, quand on peut, que ce qu'on a trouvé chez la souris peut se retrouver chez l'homme.
Il y a un caractère transposable au niveau clinique. C'est exactement la raison pour laquelle on étudie ça de manière fondamentale chez l'animal.
Alors on a identifié avec Nicolas et les collaborateurs des mécanismes importants pour les comportements addictifs. Et on a pu vérifier qu'effectivement, ce qu'on avait identifié chez la souris était bien dérégulé chez l'homme ayant souffert de dépression et d'addiction.
On parle de synergie entre la dopamine et le glutamate. Mm-hmm. Il y a en question des neurotransmetteurs qui ont des alliances un peu dangereuses.
C'est ça. C'est qu'en fait, toutes les drogues, toutes les substances addictives vont augmenter artificiellement et fortement le taux de dopamine dans certaines régions du cerveau. C'est des régions qu'on appelle le circuit de récompense. C'est des régions qui sont...
Striatum.
Alors, il y a le striatum dedans, c'est une structure très importante, mais il n'y a pas que le striatum. Et en fait, c'est un ensemble de structures qui vont, en fait, guider nos apprentissages vers une récompense. C'est-à-dire qu'on va souvent reproduire quelque chose qui est positif et ensuite... aussi éviter ce qui est néfaste. Et en fait, les drogues, en déclenchant cette libération de dopamine artificielle et importante, ça va moduler l'activité de tout système, parce que la dopamine peut elle aussi moduler un neurotransmetteur excitateur qui est le glutamate. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ce dialogue entre la dopamine et le glutamate, c'est ça qui va conduire au comportement addictif qu'on peut observer au niveau comportemental chez la souris. Et nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de comprendre quels étaient les mécanismes moléculaires qui étaient responsables de ce dialogue délétère entre la dopamine et le glutamate. Et ce qu'on a montré, même avant de collaborer avec Nicolas, ce qu'on a montré, c'est que pour que ce dialogue ait lieu, il faut que les récepteurs de la dopamine et les récepteurs du glutamate interagissent physiquement ensemble, qui forment ce qu'on appelle un complexe de récepteurs. Et on a développé des outils qui permettent de bloquer ces interactions. Alors c'est une méthode un peu invasive, on vient avec une chirurgie intracérébrale, on vient injecter un virus qui va produire une protéine qui va empêcher ces interactions entre ces récepteurs.
Ça c'est dans le cadre de délivrance de médicaments par exemple, d'utiliser des virus?
Alors justement c'est là qu'on en est loin, et c'est pour ça qu'après Nicolas va nous expliquer ce qu'on a fait. C'est qu'en fait on a une méthode qui est efficace, c'est-à-dire qu'on arrive à bloquer le développement des réponses comportementales induites par la cocaïne.
Voilà, là, l'idée, c'était de pouvoir, au niveau moléculaire, avoir une idée de comment interagissaient les récepteurs entre eux, concrètement, molécule à molécule, et de pouvoir identifier des régions qu'on pouvait cibler avec des petites molécules de médicaments classiques, en fait, qui pouvaient passer et qu'on pouvait administrer soit oralement, soit en injection directement. Donc tout le travail a été de modéliser ces zones-là qui ne sont pas forcément très bien définies, même pas trop du tout, et de cribler ensuite virtuellement des molécules, de les sélectionner et après de les tester sur des modèles in vitro et ex vivo et in vivo. Voilà.
Et donc là, on en est à quel stade? On a encore une silico
de... Non, on a déjà fait, on a criblé environ 500 000 molécules et après on a dû mettre en place un test pour mesurer une interaction un peu artificielle entre les deux fragments qui interagissent physiquement entre eux et faire un premier filtre de molécules. Et on a identifié une famille de molécules qui marchait très bien. Et là, on est monté crescendo sur les tests cellulaires, après sur les tests chez la souris. Et là, on en est à avoir testé la molécule sur un modèle d'addiction en injection directement, mais cette fois-ci CV, mais on travaille maintenant au développement de la molécule pour une injection soit IV, soit PEROS.
C'est-à-dire que sur ce modèle-là, au niveau comportemental, on observe quelque chose de significatif?
Oui, oui, on a une inhibition des comportements addictifs, mais comme le disait Nicolas, au stade où on en est là aujourd'hui, on a encore été obligé de déposer la molécule directement dans le cerveau. Et donc là, ce qu'il y a justement, c'est là que la chimie va être importante, c'est qu'on a besoin de faire une phase d'optimisation pour être sûr que quand on injecte la molécule en périphérie, elle pénètre bien dans le cerveau pour atteindre ses cibles.
Merci Céline Lozen. Nos reportages pour sortir du studio de radio et pour découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Hélène Donadieu, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Alors, je ne sais pas si je suis la meilleure personne à interroger là-dessus. Je trouve ça évidemment passionnant, voire excitant d'avoir un modèle compréhensif des phénomènes. Mais je reste convaincue que l'addiction ne se limite pas juste à des modes de fonctionnement cérébraux, même si c'est primordial, hein, puisque c'est une maladie du cerveau. Mais il y a tellement de choses qui rendront compte dans la vie de l'individu et dans les conséquences que cette maladie occasionne, que j'ai du mal à croire après 25 ans d'exercice dans l'accompagnement des personnes qui ont une addiction, qu'il existerait une molécule miracle. Mais je suis en admiration devant cette recherche qui permet d'avoir des modèles compréhensifs chez l'animal. Je me pose simplement la question de sa reproduction chez l'homme et dans la complexité. Et je me pose également la question de quand on bloque des réponses comportementales, évidemment vis-à-vis de l'addiction à la cocaïne, je ne suis pas sûre qu'on ne bloque que ces réponses comportementales. Donc je serais curieuse de savoir ce que ça donne véritablement en termes de fonctionnement du vivant après ce genre de choses. Mais je ne veux pas critiquer.
Ah, non, non, mais bien sûr. Et puis vous montrez la différence entre voilà. Recherche fondamentale avec modèle murin et passage au stade humain, qui sont en effet deux choses complètement très différentes. Florence Noble, vous souhaitiez vous aussi réagir à l'écoute de ce reportage?
Oui, parce que ce reportage, en fait, il met en évidence qu'il y a beaucoup de systèmes de neurotransmission qui sont altérés par la consommation de drogue. On parle souvent de dopamine, et c'est vrai que la dopamine joue un rôle important dans l'addiction, il n'en fait aucun doute, ça fait absolument aucun doute. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la dopamine. S'il y avait que la dopamine, je pense qu'on pourrait traiter les patients assez facilement avec des molécules qui sont capables de bloquer ce système spécifiquement. Mais aussi, l'addiction, en fait, ça va modifier beaucoup d'autres neurotransmetteurs. Et vraiment beaucoup. C'est-à-dire, ça va être le système glutamate, ça va être le GABA, ça va être la sérotonine, ça va être la noradrénaline, ça va être aussi plein d'autres systèmes. Et c'est toute la complexité, en fait, de cette pathologie addiction aussi, et de trouver des médicaments qui soient efficaces.
Et l'autre chose que vous me disiez pendant l'écoute de ce reportage également, c'était sur la différence entre hommes et femmes du point de vue du cerveau et aussi du point de vue des traitements.
Oui, parce que maintenant il y a des études. Alors il y a des études qui ont été faites très récemment, en fait, hein, 2025, hein, sur des cerveaux d'hommes et de femmes en post-mortem qui ont consommé des drogues. Alors je suis pas sûre que ça ait été fait avec la cocaïne, mais en tout cas c'est des personnes qui sont mortes d'overdose aux opioïdes. Et il a bien été montré que les modifications au niveau de gènes dans le cerveau étaient pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire sur 200 gènes qui ont été montrés régulés au niveau post-mortem, il y en a que un tiers qui sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Donc il y en a deux tiers, c'est des gènes différents entre les hommes et les femmes. Donc ça veut dire que d'un point de vue neuroadaptation, il y a des choses différentes qui se mettent sans doute en place chez les hommes et chez les femmes. Et sans doute qu'en termes de traitement, ça peut avoir aussi un impact, bien sûr, peut-être une prise en charge différente entre les hommes et les femmes.
Et on a dit tout au long de cette heure beaucoup, on a beaucoup dit il n'y a pas de traitement, mais on parlait évidemment de pas de traitement pharmacologie, parce que bien sûr il existe des soins, une prise en charge. Pour conclure rapidement, Marie-Geoffrey Roustide, on est arrivé à la fin de cette discussion, mais que faire face à la stigmatisation des consommateurs qui limite justement l'accès aux soins?
Moi, je pense que ce qui est très important, c'est d'abord de penser aussi à la manière dont on traite les consommateurs avec la loi, la question de la loi. Et en fait, un des problèmes qu'on a en France, c'est que souvent, l'approche répressive prend le dessus sur l'approche sanitaire et sur l'approche sociale. Et donc, en fait, parler des consommateurs, par exemple, comme des criminels, ou dire qu'ils sont responsables du trafic, ça contribue à les stigmatiser, ça contribue à la honte face à la consommation, et donc ça contribue également à les éloigner des soins. Donc je pense que les médias ont un rôle important à jouer pour transmettre des informations qui soient des informations basées sur la science et non pas sur l'idéologie. Je pense qu'il est aussi très important de faire un travail de prévention vis-à-vis des plus jeunes, en informant sur les risques liés à la cocaïne, et puis aussi de renforcer les programmes de réduction des risques.
Voilà, et en effet, en France, la législation française dans le domaine est l'une des plus répressives en Europe. Pourtant, on voit bien que cette approche est un peu efficace. Merci, un grand merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on retrouve Alexandra Delbo. On quitte la santé, on passe du côté de l'astrophysique avec des rayons cosmiques très très puissants. C'est la chronique avec science.
D'où vient vraiment Amaterasu, le second rayon cosmique le plus puissant jamais détecté. Un rayon cosmique, ce n'est pas un rayon lumineux, ce sont des particules qui viennent de l'espace. Chaque jour, ce flot heurte la Terre et quelques fois par an avec une énergie considérable. Le plus puissant jamais capté s'appelle Oh My God. Il a été détecté dans l'Utah le 15 juin 1991. Sa vitesse est estimée à un peu plus de 0,99999, il y en a 23, fois la vitesse de la lumière. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. On ne connaît pas la nature de cette particule, ni d'où elle vient. En revanche, celui qui occupe désormais la seconde place du rayon cosmique le plus énergétique jamais détecté est bien plus récent, et donc un peu mieux connu, c'est ce Amaterasu. Et jusqu'à présent, son origine paraissait un petit peu étonnante. Nadine Bourriche est doctorante et chercheuse à l'Institut Max Planck de physique à Munich.
Amaterasu était détecté en 2021 par le télescope Array. C'est un observatoire situé aux États-Unis, mais ils ont annoncé la découverte qu'en 2023, parce qu'on ne détecte pas directement le rayon cosmique, on détecte ce qu'on appelle une gerbe atmosphérique qui est produite par le rayon cosmique qui interagit avec les molécules de l'atmosphère. Et après, à partir de cette gerbe atmosphérique, on peut reconstruire les caractéristiques du rayon cosmique. Oui, initialement, on a cru que la direction d'arrivée de ce rayon était dans le vide local. Alors, le vide local est une zone de l'univers qui est assez proche de nous et où il n'y a pas beaucoup de galaxies. Et même les galaxies qu'il y a, elles ne sont pas très intéressantes parce qu'on s'attend qu'un rayon cosmique de cette énergie origine dans une galaxie active, ce qu'on appelle une galaxie active.
Qu'Amaterasu vienne du vide local, autrement dit d'une zone proche de l'espace où littéralement il n'y a pas grand-chose, est un petit peu surprenant. Un rayon cosmique si énergétique a forcément été accéléré, soit par une explosion d'étoiles, par un trou noir ou des vents galactiques, bref, des phénomènes intenses et spectaculaires. Il faut donc revoir un petit peu notre copie et essayer de déterminer si Amaterasu, du nom d'une déesse japonaise du soleil, ne viendrait pas d'ailleurs. Mais il est particulièrement difficile de remonter à l'origine des rayons cosmiques parce que tout est très indirect. On ne détecte pas le rayon cosmique en lui-même, mais la cascade de réactions quand il cogne les constituants de l'atmosphère. Et puis, un rayon cosmique est une particule chargée dont la trajectoire peut varier en fonction de la présence de champs magnétiques galactiques qui sont encore assez mal connus. Tout est donc très indirect et les petites incertitudes s'accumulent. C'est pour y voir plus clair que cette nouvelle étude parue dans Astrophysical Journal propose de tester toutes les origines possibles et imaginables d'Amaterasu, donc des millions de scénarios différents. Et pour chacun d'entre eux, l'étude ne fournit pas une réponse absolue, mais une probabilité. Et donc, Amaterasu pourrait venir de la galaxie M82.
C'est une possibilité, parce que M82 est dans notre carte de probabilité, et aussi parce que M82 on sait que c'est une galaxie très active. L'origine de Amaterasu ne doit pas être forcément le vide local. Donc, il y a des autres possibilités. Ça, on peut le dire avec certitude. On ne peut pas dire avec certitude que la particule vient de M82. Il y en a une qui s'appelle NGC 6946. Celle-là est vraiment au centre de notre carte de probabilité. Mais le problème, c'est que c'est une galaxie active, mais il n'y a pas de phénomène connu dans cette galaxie en particulier qui peut expliquer un rayon cosmique avec l'énergie de Amaterasu.
Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin de faire appel à de la physique trop exotique pour expliquer l'origine d'Amaterasu, la physique classique suffit, mais impossible de désigner un seul coupable, je sais, c'est toujours frustrant. M82 reste l'origine la plus probable parce que sa trajectoire est possible et parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette galaxie. Elle forme beaucoup d'étoiles, elle est déchirée par des supervents galactiques, elle a été le siège de plusieurs supernovae et elle contient des trous noirs. C'est la meilleure candidate parce qu'elle héberge donc des phénomènes très puissants. Pour affiner cette prédiction, il faudra détecter d'autres rayons cosmiques de ce niveau d'énergie. C'est en accumulant les événements qu'on pourra éliminer une à une les hypothèses pour n'en conserver qu'une seule. Et justement, le télescope Array aux États-Unis et l'observatoire Pierre Auger en Argentine sont en train d'être modernisés pour augmenter leur capacité de future détection.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, à ICI Montpellier pour le duplex, à Olivier Bétard pour la réalisation, Grégory Wallon pour la technique. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.